I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission vous est proposée avec la luxueuse participation de Jérémy Ladron, Lolo Bert, Dimitri Meunier, Jonathan, Christine Rochereau, William, Décius Mus, Nicolas Éloin, Pascal Potvin et Jacques Fayol. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume l'actualité, technologie, internet et gadgets. Tous les 15 jours, on vous fait un petit medley du plus intéressant de tout ce qui s'est passé dans l'actu tech qui est si importante pour notre économie, notre politique, notre communication, notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jeff pour son retour triomphal après les vacances. Comment vas-tu, Jeff ?
Ça va très bien, retour triomphal je sais pas, mais retour là où il fait beau et chaud, dans la Silicon Valley, alors que j'étais à Paris pour les 15 premiers jours de juillet, pendant la canicule, et donc Paris
tombé sur le bord,
avec plus de 40 degrés sans air conditionné, c'est très chaud.
Oui, effectivement, ils ont essayé de, tu vois, Paris a essayé de te faire ne pas regretter ta transition aux États-Unis. La ville a gentiment essayé de te montrer que tu avais bien fait d'aller là où il y a de l'air, au pays de l'air conditionné.
Ouais, on est arrivé quelques jours après qu'ils aient cramé des Uber Pop dans les rues. C'était sportif, mais comme toujours, un bon petit 15 jours à Paris et puis retour dans la vallée pour tout plein de choses intéressantes à investir et tout et tout.
Oui, ça tourne fort même en été.
Ah oui, la notion que il y a 10 ans ou 15 ans, les VC prenaient tout l'été et ne travaillaient pas et donc rien ne se passait. Ça fait bien longtemps que c'est fini, donc grosse activité au niveau deal flow, plein de création d'entreprises, des choses intéressantes, et je pense que on va continuer notre petit bonhomme de chemin et faire nos 4 ou 5 investissements en trimestre comme on le fait régulièrement tous les trimestres.
Très bien, je vois que tu as amené l'éthique du travail francophone sur la côte ouest. Je suis très fier de toi. Et retour triomphal, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui t'ont réclamé. J'ai reçu quand même quelques messages me disant « Mais Jeff, il est où ?» Je disais « il est en vacances, moi j'étais en vacances après, ça s'est mal goupillé, mais voilà. Tu es de retour, on est tous très contents.
Enfin, » juste, on a dû manquer 2 ou 3 rendez-vous tech, j'étais en vacances pour 14 jours, quand même.
Hein. c'est tombé pile au mauvais moment. Donc,
Oui.
Et mes vacances aussi, du coup. Mais donc, on a aussi avec nous un jeune homme que je suis très heureux de recevoir dans le Rendez-vous Tech, parce que ceux qui écoutent depuis un moment auront peut-être déjà entendu son nom. Il a déjà été prononcé dans l'émission et dans d'autres émissions comme Geeking, par exemple, pour ceux qui apprécient Monsieur Cédric Bonnet. C'est Jean-Philippe Ancos. Comment vas-tu, Jean-Philippe ?
Bonjour à tous, ça va très bien. Aussi auditeur depuis Azeroth.fr.
Ouh là là, vieux de la vieille.
Et donc tout se passe bien, c'est un plaisir vraiment de pouvoir participer en vrai dans cette émission.
Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire très rapidement les présentations. Tu es le monsieur qui est derrière l'interface Sarah, qui est une interface de langage naturel pour parler et qui nous répond pour contrôler la maison connectée. Et tu avais commencé le développement il y a très longtemps, il y avait des produits utilisables depuis quoi ? Ça fait 3 ans déjà, bien avant que les assistants de ce type-là soient vraiment perfectionnés. Ça fait presque 3 ans que c'est utilisable, Sarah, non ?
Ouais, ça fait à peu près 3 ans depuis que les objets connectés sont arrivés, que j'ai voulu essayer de tout connecter et dans le cadre de la maison, pour avoir une maison comme dans la série Eureka, où on parle à sa maison et on pilote tout.
Je me souviens quand Cédric justement m'avait fait la démo, m'avait envoyé les vidéos de démo, j'avais la mâchoire qui s'était complètement décrochée. C'était un truc de science-fiction. Donc bon, pour ceux que ça intéresse, c'est à Sarah tout en majuscule avec c'est en fait des initiales, un acronyme SARAH. Vous pouvez aller regarder ça. Et aujourd'hui, tu travailles sur Smart Home, c'est ça?
Ouais, en fait, je viens de créer une startup qui fait des études qualitatives marketing en utilisant des objets connectés et des caméras qu'on met chez les gens pour essayer de comprendre leur comportement autour des produits.
Ah, c'est le Big Brother, mais utilisé pour des choses bien.
Voilà, c'est ça. Et puis on ne regarde pas les gens, on regarde les produits.
Bon, ok. Alors ça va, tout va bien.
Ça va.
Bon, bah c'est bien, on est en bonne compagnie et donc on va pouvoir faire une bonne émission. On va vous parler aujourd'hui de Windows 10 qui sort dans 2 jours seulement au moment où on enregistre, de quelques résultats financiers intéressants. On n'est pas toujours très détaillé sur les résultats financiers, mais là, il y en a quelques-uns qui ont attrapé mon regard. Donc on va les évoquer pour Google, Apple, Amazon. Et on va continuer avec, dans les news et rumeurs, pour pas faire trop long dessus, des sujets comme par exemple la loi renseignement, sur laquelle je vais dire vraiment 2 mots, et de la stéréoscopie visuelle animée étrange dont nous parlera JP, avec d'autres choses encore, des robots, des hackers qui hackent vos voitures, etc., etc. Mais avant tout ça, on va commencer avec Windows 10, qui, comme je le disais, sera lancé par Microsoft dans 2 petits jours seulement, le 29 juin. Donc, il est possible que quand vous écoutez cette émission, Windows 10 est déjà disponible. Et j'aimerais donc qu'on fasse un tout petit tour d'horizon rapide de cette nouvelle version de Windows. Et là, je me doute déjà que Jeff, n'aura pas grand-chose à dire. Encore que j'imagine que tu as des machines sous Windows, toi, Jeff.
Une.
Une, d'accord, pour quand même pouvoir tester. Tu vas la mettre à jour sous Windows 10?
Ben écoute, je voulais passer de Windows 7 à Windows 8 et j'ai fait toute l'install et l'install s'est planté au tout dernier moment au moment du reboot et donc j'ai dû
D'accord.
réinstaller Windows 7. Donc j'espère que ma machine qui est maintenant un peu vieille, puisque en fait j'achète des Mac très souvent et des PC pas souvent, pourra faire tourner Windows 10 parce que je suis quand même intéressé de savoir ce que cette OS que plus personne n'utilise ici fait.
Eh bien, écoute, nous, on sera très intéressés aussi. Moi, je suis un fervent utilisateur de Windows. JP, je crois que c'est ton cas aussi. Et donc, justement, de quoi s'agit-il ce Windows 10? On va commencer par un petit tour d'horizon de ce que c'est et de ce que ça amène. Alors, la première chose à dire, c'est que Windows 10, c'est un petit peu la session de rattrapage de Windows 8, de la même manière que Windows 7 était la session de rattrapage de Windows Vista. Moi, j'aime beaucoup Windows 8, mais il y a beaucoup de gens qui font le signe de croix quand ils entendent le nom de cette OS. Et Windows 10 a vraiment été conçu pour ramener tous ces gens-là au bonheur de Windows en corrigeant toutes les erreurs qu'il y avait eu, ou les erreurs, disons les choix de design qui n'ont pas été compris du grand public qu'il y avait eu dans Windows 10. Donc, par exemple, on oublie tout l'aspect écran de démarrage, écran démarré avec toutes ces tiles, toutes ces... comment on les appelle les tiles en français sous Windows? Quelqu'un peut m'aider? Je ne me souviens plus. Bon, on est un petit peu anglophone. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Voyons voir si on tape Windows Tile français. Hop, je sais plus. Tile Windows. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Vous savez ce que c'est les tiles, c'est ces petites icônes, ces écrans qui nous permettent de lancer les applications et qui sont, à mon sens, pas super pratiques en desktop, qui étaient surtout prévus pour les laptops et les téléphones. Et donc, cet écran géant de tile qui remplaçait le menu démarrer va disparaître au profit d'un retour du menu démarrer qui intégrera lui aussi ces tiles de Windows et le menu démarrer traditionnel. Je crois que c'est la chose la plus marquante pour les gens qui n'aimaient pas Windows 8. On oublie aussi la barre de widget, la barre de charme, qui sortait du côté et qui était assez difficile à comprendre pour les utilisateurs qui ne mettaient pas un minimum d'effort, contrairement à moi qui... Enfin, j'avoue que cette barre de charms, je ne l'utilisais pas du tout. Donc, même moi, je ne l'utilisais pas vraiment, je ne la regretterai pas. Bref, quoi qu'il en soit, Windows 10, c'est le meilleur de Windows 7 et de Windows 8 en oubliant les erreurs de Windows 8. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente version de Windows. Moi qui aimais beaucoup ces deux versions de Windows 7 et 8. Donc je pense que c'est une réussite annoncée pour Microsoft. Donc il y a cette histoire de menu démarrer qui fait son grand retour, mais là je me retourne vers JP parce qu'il y a aussi un autre gros élément qui va arriver avec Windows 10, c'est Cortana, l'assistant personnel de Microsoft.
Ouais, et qui marche vraiment très très bien, qui marche dans toutes les langues et qui fonctionne, bah, c'est un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, comme Siri ou comme Google Now, et qui est capable de répondre aux différentes questions des utilisateurs. Je crois que vous avez fait pas mal de démos dans Upload, et on a vraiment des très bons résultats qui sont vraiment sympas.
Alors, pour ceux qui connaissent Siri ou Google Now, on peut s'attendre à peu près à la même chose. Il y a des choses qui sont améliorées, des fonctionnalités différentes, ou c'est vraiment juste l'assistant personnel de Microsoft qui est comparable à ceux qu'on a chez Apple et Google.
Alors ça va être une guerre de chapelle. Je pense que ils sont tous un petit peu près équivalents. Ils envoient tous en fait de l'audio sur Internet, sur les serveurs de Microsoft pour essayer de comprendre ce qu'on dit et être intelligent pour essayer de nous fournir une réponse correspondant à ce qu'on attend. Donc les résultats sont à peu près équivalents. Je pense que Microsoft a quand même des meilleures réponses. Enfin, ça va faire débat. Et surtout, Microsoft veut connaître tout son environnement Windows parce que Cortana est présente sur le mobile, mais aussi présente sur le desktop, ce qui fait que Microsoft sait tout de nous et donc est capable de fournir des réponses. Si on demande ses prochains événements de calendrier, Cortana est capable de les afficher, d'être intelligente, etc.
D'ailleurs, on savait que Cortana allait arriver sur les autres systèmes également. On a eu des leaks sur Cortana sur Android et elle sera aussi sur iOS, bien sûr avec des limitations parce que l'OS d'Apple ne permet pas un accès total au système, mais elle sera également présente là aussi. Donc, pour moi, la grosse différence de Cortana, c'est tout bête, hein, mais c'est le fait qu'elle soit disponible sur l'ordinateur de bureau ou sur le laptop, ce qui n'était pas encore le cas pour les appareils Apple ou d'autres types d'appareils comme les Chromebooks ou ce genre de choses. Donc, l'assistant personnel de Microsoft, c'est le premier qui est disponible sur les, entre guillemets, vrais ordinateurs. Maintenant, à savoir s'il sera vraiment efficace ou pas, j'aurais tendance à poser la question du coup à vous deux. Jeff, est-ce que tu utilises Siri, toi, ou c'est le genre de truc que tu utilises jamais ?
Non, j'ai testé Siri depuis les premiers jours et malheureusement, mon anglais châtié avec mon accent français fait que la plupart du temps, cette saloperie ne comprend pas ce que je raconte. Et comme ça m'énerve de répéter les ordres que je donne, de temps en temps, enfin, je pense que ça s'est vraiment amélioré et il faudra que je l'essaye. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une interface homme-machine différente sur Windows, donc ça vaudra le coup d'essayer. Alors, est-ce que derrière... tu l'utilises très souvent, ça devient en fait la question. C'est plutôt qu'interagir avec le clavier et la souris, est-ce que tu te mets à parler à ton ordinateur ? Quand tu es tout seul au bureau, pourquoi pas ? Quand tu es dans un environnement un peu bruyant, ça peut être problématique.
Ouais, c'est la grande question de tous ces assistants. Est-ce qu'ils seront des gadgets qu'on va utiliser une fois de temps en temps ou est-ce qu'ils rendent vraiment service ? Mais à vrai dire, moi, ce que je me dis, c'est que même s'ils rendent pas énormément service aujourd'hui, j'imagine qu'ils rendront service à l'avenir et que là, ils mettent les fondations nécessaires de ce type de service et qu'à terme, ils vont forcément s'améliorer, devenir plus intelligents, mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux nous répondre et que à ce moment-là, ça sera utile. JP, toi, t'es un petit peu spécialisé dans ce type d'interaction homme-machine. C'est cohérent ce que je dis?
Ouais, c'est vraiment, je pense, une révolution qui va arriver progressivement. Le problème qu'il y a actuellement avec les assistants, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour parler. Et donc, généralement, quand on appuie sur un bouton, on peut directement appuyer sur une touche de clavier, sur une application et faire l'action qu'on en souhaite. Alors que petit à petit, quand on va être dans un environnement comme la maison, on n'a pas forcément le bouton à portée de main. Donc, c'est là où l'assistant vocal a du sens. C'est ce que fait Amazon avec Amazon Echo, où ils ont décidé de se mettre au centre de la maison. Il va manquer deux choses. Le fait de pouvoir se brancher à toute la maison, ça va arriver progressivement. Et le fait de comprendre ce que dit l'utilisateur. Parce qu'on parle un flot de texte, mais ensuite, il faut comprendre ce que veut la personne.
Et oui, parce que pas forcément ce qu'il dit, même si on comprend ce qu'il dit et qu'il réussit à le retranscrire, il faut comprendre ce qu'on veut. C'est ce que tu veux dire, non?
Voilà, il faut comprendre quelle est...
Déjà, moi, je comprends ce que tu veux dire. Donc, première victoire pour l'homme sur la machine. Pardon.
Il faut comprendre ce qu'on veut dire. Et en français, c'est compliqué parce que comme on a des doubles négations, c'est très difficile de comprendre le sens des phrases. Et on fait des progrès gigantesques en ce moment, et donc c'est très positif parce que nos maisons seront intégrées. Et pour donner un cas concret, si par exemple tu cherches une musique dans ta bibliothèque de musique, tu vas être obligé de faire plein de clics. Alors que si tu dis juste « joue-moi telle musique », directement c'est intuitif, on va avoir un résultat. Et le fait d'avoir l'assistant qui parle en retour, c'est le même mode de communication, ce qui fait que ça rassure, ça marche bien. Et Cédric me disait que les enfants sont vraiment friands de tout ce qui est discuté avec une intelligence artificielle, enfin une entité. Ça marche vraiment bien, c'est-à-dire que les enfants touchent les écrans de télé pensant qu'ils sont tactiles, et les enfants parlent à des Cortana, pensant que ce sont des êtres vivants.
Ouais, c'est marrant ça, effectivement. On va avoir toute une génération qui va, comme on a maintenant une génération qui est née avec Internet et les communications instantanées, on va avoir des enfants qui seront nés, des gens qui seront nés avec ces assistants. Et comme tu le dis, les progrès qu'on fait sont saisissants. On le verra un petit peu plus tard avec le Deep Stereo Technology qui anime des images fixes. C'était assez saisissant. Et donc tout ça s'améliore et va former un tout intelligent en plus vite qu'on le pense. On aura aussi donc dans Windows 8 Internet Explorer qui disparaît au profit d'un nouveau navigateur, le navigateur Edge de Microsoft. On aura DirectX 12 pour les joueurs invétérés, ça les intéressera, c'est une nouvelle bibliothèque de fonctionnalités graphiques. Et on aura une autre fonctionnalité de mise à jour automatique qu'on ne peut pas facilement annuler. C'est-à-dire que par défaut, Microsoft vient de distribuer un outil pour permettre de bloquer des mises à jour, notamment sur des drivers, quand certains drivers ne sont pas de très bonne qualité. Mais pour la plupart des gens, les mises à jour seront automatiques. Ce qui veut dire que pour la plupart des gens, les mises à jour seront faites sans qu'il n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Et donc, forcément, ça voudra dire que les utilisateurs seront toujours à jour dans leurs OS, ce qui veut dire que les OS seront beaucoup plus facilement maintenus et la question de la sécurité devrait être, on l'espère, beaucoup moins problématique à terme quand une grosse partie des utilisateurs sera passée sous Windows 10. Ça, c'est une grosse avancée parce que même s'il en reste quelques-uns qui ne seront pas à jour, l'incentive, la motivation économique pour les gens qui vont exploiter les failles de sécurité sera moins grande parce qu'ils auront accès a priori à moins de machines puisque les mises à jour seront faites automatiquement. C'est une nouvelle assez importante. Alors, Windows 10 est gratuit la première année pour tous les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8. La grande question maintenant, c'est est-ce qu'on doit faire la mise à jour? Il y a énormément de gens qui nous écoutent, qui ont vu apparaître dans leur zone de notification la petite icône disant « Votre Windows 10, vous pouvez le réserver tout de suite, vous pouvez mettre à jour très rapidement. » Est-ce que les gens doivent le faire ou pas? C'est une question qui est difficile, mais je vais te la poser quand même, JP.
Alors moi j'ai fait la mise à jour il y a quelques mois pour tester si ça fonctionnait bien avec Sarah, et donc Sarah tourne bien sur Windows 10. J'ai fait les mises à jour en tant qu'insider sur ma table connectée et ça marche super bien, ça m'a même corrigé des problèmes de driver que j'avais. Est-ce qu'il faut faire la mise à jour? Je pense que oui, parce que j'ai l'impression qu'on gagne en performance, en rapidité, enfin, on aura toujours une machine plus propre. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Je crois que Microsoft répond directement en disant qu'ils ne vont pas mettre à jour tout le monde d'un coup, comme le ferait Apple, mais progressivement dans le temps.
Oui, c'est sûr que les appareils sous Windows sont tellement plus divers et il y a tellement plus de configurations, ils vont faire les choses petit à petit. Je crois que leur politique était de mettre à jour d'abord les gens dont ils sont à peu près sûrs que leur matériel sera suffisamment... enfin, supportera Windows 10 facilement parce qu'ils ont des éléments, des composants qui sont déjà bien établis comme fonctionnant avec Windows 10. Donc, ça va venir petit à petit. Je pense qu'il faut effectivement, si vous avez un appareil que vous utilisez avec des logiciels particuliers ou des fonctionnalités que vous devez absolument utiliser pour le boulot, par exemple, là, il vaut peut-être mieux attendre un tout petit peu, je dirais 2-3 semaines, voir si quelqu'un que vous connaissez qui utilise le même logiciel a installé Windows 10 et que ça fonctionne pour lui. Mais sinon, si c'est une machine que vous utilisez juste pour surfer sur Internet, faire un peu de Skype et regarder YouTube, je pense que vous pouvez y aller. Et comme tu le disais, JP, ça apporte des améliorations de fonctionnalités. De performance plutôt. En particulier, Windows 8 le faisait déjà. Donc, je pense qu'il y a peu de raisons de ne pas installer Windows 10, sauf si effectivement votre ordinateur est utile pour votre travail et qu'il est très important de le garder 100% fonctionnel. Pour les utilisations un petit peu plus de loisirs, on peut peut-être y aller. Donc voilà pour le tour d'horizon très rapide de Windows 10. C'est pas une mise à jour qui fait énormément de flash et de feux d'artifice, mais c'est une mise à jour qui en profondeur est importante pour l'écosystème Windows et qui va devenir la mise à jour de Windows, enfin la version de Windows, peut-être même pas la dernière, mais en tout cas vers laquelle tout le monde va aller, ce qui est extrêmement important aussi pour l'écosystème. À noter en news Microsoft que, d'une part, on a le fait que Windows Phone et la Xbox ne seront pas mis à jour en même temps que les PC. Donc, il faudra attendre un tout petit peu, sans doute cet automne, pour voir cette mise à jour arriver. Microsoft a aussi confirmé qu'il continuait à faire des téléphones, mais uniquement, comme on s'en doutait, en petite quantité, pour donner une sorte de modèle aux autres constructeurs. Et enfin, il y a la fin de la mise à jour de Windows XP, la fin des mises à jour de sécurité pour Windows XP, qui représente tout de même 12% du parc installé encore, contre 60% pour Windows 7 et 16% pour Windows 8, avec encore 1,6% pour Windows Vista, qui se bat vaillamment pour rester en vie. Et on a 4,5% pour Mac et 1,6% pour Linux, pour les ordinateurs de bureau. Donc, fin de mise à jour de Windows XP, si vous êtes encore sous Windows XP ou si vos parents ou quelqu'un est encore sous Windows XP, là il faut vraiment vraiment mettre à jour et pourquoi pas mettre à jour sous Windows 10. Je rappelle que Windows 10 est donc gratuit la première année par mise à jour automatique pour tous les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8. Si vous mettez à jour pendant la première année, vous gardez cette version de Windows 10 pour l'éternité de la vie de votre appareil. Dernière nouvelle pour Microsoft, ils ont annoncé leurs résultats comme beaucoup d'autres et il y a eu une grosse perte pour Microsoft pour l'une des premières fois de leur histoire et c'est certainement dû à ce dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire le fait qu'ils ont considéré comme perte tout l'argent qu'ils avaient investi dans Nokia. Donc là, ils ont eu une grosse perte cette année qui ne se retrouvera a priori pas qui ne se retrouvera pas dans les trimestres et les années suivantes. On peut imaginer, parce qu'avec l'arrivée de Windows 10, l'automne devrait être plutôt positif. Résultat financier donc, Google qui monte de 15% en une journée. Jeff, toi tu suis les résultats financiers, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Google qui a pris 15% d'un coup?
En fait, ils ont sorti des résultats et des forecasts, enfin une annoncé que les futurs résultats seraient supérieurs aux attentes du marché. Et donc, là où Google était un peu sur un train pépère, si j'ose dire, depuis quelques trimestres. Ils se sont retrouvés comme étant une boîte plus intéressante. Ils ont excité les analystes. Et donc, ça s'est traduit en une croissance plus importante du revenu et du profit. Et donc, voilà quoi.
On sait où ça, c'est plus intéressant pour eux. Enfin, ils font des résultats meilleurs que prévu.
C'est dans le core business. C'est-à-dire que les activités aujourd'hui, genre les voitures qui se conduisent toutes seules, les ballons qui fournissent Internet, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais on ne verra pas de revenus. Pour le moment, on voit simplement des coûts qui s'empilent et on ne verra pas de revenus avant plusieurs années. Mais bon, c'est intéressant et important pour le futur de Google. Non, c'est juste dans le core business.
Mais est-ce qu'il y a... Alors ouais, donc il y a, j'imagine, c'est la recherche hein, pour Google, évidemment. On voit que YouTube aussi a énormément grossi. C'était 60% d'une année sur l'autre. Mais ce que je me demande, en fait, c'est où est-ce qu'ils vont chercher cette croissance? Google, ils ont déjà un quasi-monopole sur ces domaines-là, au moins en Europe. Comment ils font pour grossir encore? Je ne sais pas si tu es dans le secret des dieux, mais...
Non, c'est une question de performance de l'advertising. Il y a clairement leur activité YouTube qui continue à grossir de façon incroyable, avec une augmentation du temps passé sur les vidéos par jour qui a encore augmenté. Il y a énormément d'activités sur le mobile. Donc tout ça, quand tu le rajoutes, ça veut dire que sur le temps total passé sur Internet, les propriétés Google vont... c'est pas Facebook, mais c'est quand même vachement important, quoi.
C'est marrant, quand tu parles de mobile et de YouTube, c'est des trucs que Google a acquis finalement. Ils ont acheté Android, ils ont acheté YouTube et ils se sont construits leur avenir financier et leur succès de cette manière. Bien sûr, la recherche marche encore beaucoup, mais c'est vraiment des domaines dans lesquels ils n'étaient pas vraiment à la base et dans lesquels ils ont eu l'intelligence de voir l'avenir, quoi.
Tout à fait. YouTube est de loin une des plus belles acquisitions de l'histoire de la Silicon Valley, puisque Google a payé 1,6 milliard de dollars pour YouTube, qui à l'époque faisait pas un centime de revenu. Et aujourd'hui, c'est devenu donc une activité majeure pour Google, même si en fait, je n'ai pas l'impression que...
Je ne crois pas qu'ils fassent beaucoup d'argent. Hein,
non, ils ne poussent pas la monétisation, mais c'est le temps qu'ils passent. Tout ça, c'est quand même de la pub. Hein. Je veux dire, c'est des millions d'heures qui sont passées, enfin des milliards d'heures qui sont passées sur les propriétés, donc, sur les vidéos de YouTube. Et derrière, tu as quand même énormément de pubs. Et la pub vidéo peut avoir un CPM beaucoup plus haut si elle est targetée. La bannière que tu vas avoir sur un site web.
Ouais,
donc,
c'est
le fait que tu vas passer beaucoup de temps sur des propriétés de Google, qu'on va en gros comprendre ce qui t'intéresse en fonction des vidéos YouTube que tu vas regarder. Et après, il va y avoir beaucoup de retargeting qui va être... je ne sais même pas ce que ça veut dire, retargeting en français, désolé.
Reciblage, en fait. Le fait de recibler la personne avec les données qu'on a eues.
Voilà, donc tu vas recibler, merci. ce qui fait que tu vas avoir beaucoup plus la possibilité de faire du ciblage de pub beaucoup plus fin, et donc tu vas pouvoir payer beaucoup plus. Donc en fait, tout ça veut dire que Google va avoir la possibilité de te faire passer beaucoup de temps sur ces différentes propriétés. Android, c'est une autre histoire. Donc effectivement, Android aujourd'hui, c'est l'OS numéro 1 dans le monde du mobile, mais en termes de footprint, pas en termes de revenus.
Donc en termes de nombre de
pénétration, de ouais. Pénétration, voilà.
C'est ça. Mais pas en termes de revenus, effectivement.
Apple va avoir genre 80% de tous les profits de tous les vendeurs de téléphones grâce aux marges qu'ils vont générer sur les iPhones.
Justement, avant de parler d'Apple, JP, quand on parle de ciblage et de tout ça, toi, c'est un univers que tu connais un petit peu. Google est toujours à ce point inévitable. Enfin, j'ai l'impression que c'est évident, mais tu peux le confirmer. Google, c'est inévitable dans ce domaine. Il faut travailler avec Google si on veut bien cibler la publicité qu'on va faire, ou il y a d'autres options, ou je sais pas.
Ouais, je pense que effectivement Google permet de cibler, Facebook aussi. Quand on entend,
c'est vrai que je pense même pas à Facebook, mais Twitter,
Alors juste Twitter est en train d'arriver dans le jeu, mais de plus loin. Quand on entend les gens parler de montage de projets Kickstarter directement Ils font de la pub sur, ils mettent 50 000 euros sur Facebook et Google pour réussir à avoir le nombre critique qui fait que leur projet va fonctionner. Donc c'est vraiment incontournable. Et sur l'aspect vidéo, je suis de près tout ce qui est caméra et on commence à arriver à voir arriver toutes les caméras 360. Donc on a un bel avenir qui se dessine pour YouTube.
Ouais, effectivement. C'est marrant, tiens, d'ailleurs, j'ai fait cet été un petit test et j'ai mis un petit peu d'argent pour faire des pubs sur Twitter et sur Facebook pour voir ce que ça donnait parce que je l'avais jamais, j'avais jamais fait. J'ai mis quelques euros, hein, je me suis pas ruiné non plus. Et j'ai été assez surpris de voir à quel point les résultats étaient meilleurs sur Facebook. C'était invraisemblable la différence. Moi, je pensais qu'il y avait une différence, mais au final, le coût par clic généré était quelque chose comme 10 fois plus élevé sur Twitter par rapport à Facebook. C'était surprenant. On avait effectivement, je dis un chiffre au hasard, hein, mais un truc du genre, le clic avait coûté 10 cents sur Facebook, alors qu'il avait coûté 1 $ ou 1,10 $ sur Twitter. C'était invraisemblable la différence, quoi. Donc, j'ai été assez surpris.
Pour donner un petit exemple, c'est Oussama Amar de The Family qui disait, t'as une super idée, tu sais pas si tu peux lancer une boîte, tu mets 50 € en ad sur Facebook et tu regardes si ça va marcher. Si tu as 40% de retour, c'est que tu peux lancer ta boîte.
Pas mal ça. 40% de retour?
Ouais, c'est quand même beaucoup. Par rapport à ta cible, parce que dans Facebook, tu peux très très bien cibler
bien
ta
sûr,
cible,
ouais.
Et du coup, tu peux tester ton résultat.
Effectivement, ouais, pas bête. Bon, si vous avez une idée de start-up, voilà une méthode. Et justement, on parlait d'Apple, qui pour le coup a eu de meilleurs revenus, un tiers de revenus supplémentaires par rapport à l'année dernière, avec un énorme revenu supplémentaire pour les iPhones. Par contre, moins pour les iPads et un petit peu plus pour les Mac. Disons que la chose à noter, c'est effectivement que les iPhones sont montés énormément, à presque 60% de revenus en plus. iPad baissé à peu près 20%. Et pourtant, avec 60% de revenus en plus, donc ils en ont vendu des camions entiers, l'action a chuté de 7% après l'annonce. Ils ont vendu genre 1 million d'iPhone de moins que ce qui était prévu. Comment fonctionne la bourse, Jeff? Je comprends pas. Ils vendent 60% d'iPhone en plus, 33% de revenus en plus, l'action chute. Je vois pas.
Eh ben ouais, c'est con, hein.
Bah oui, mais explique-moi la bourse, Jeff.
Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vas avoir Apple qui va donner au marché ses estimations pour les prochains trimestres. Et après, tu vas avoir toute une batterie d'analystes, c'est des dizaines dans le cadre d'Apple, qui vont tous essayer d'estimer leur propre chiffre magique en termes de croissance, en termes de revenus, de profits, de nombre d'unités vendues pour les iPhones, les iPads, les Mac et surtout l'Apple Watch, donc la montre. Et bah, comme tu le disais, Apple, en gros, a très bien fait sur la partie iPhone. Le problème, c'est que l'action qui avait déjà cru pas mal sur les quelques semaines et mois passés, avait déjà anticipé que les résultats allaient être bons de ce côté-là. Et ce qui s'est passé, c'est que Apple, pour le prochain trimestre, a donné une estimation, un forecast, qui était légèrement en dessous de ce que les analystes attendaient et qu'ils avaient déjà pricé. Parce qu'en fait, un analyste financier, il va essayer d'estimer la croissance des revenus d'Apple sur 2 ou 3 ans et faire un modèle qu'on appelle discounted cash flow, bonne chance pour dire ça en français, qui va dire, bah voilà, basé sur tel taux de croissance, basé sur tel profit, je pense que l'action Apple va valoir tant à 1 an ou 2 ans. Et donc, les analystes, avec leur modèle, avaient prévu une croissance supérieure et c'est ce qui a fait descendre donc l'action Apple de façon assez importante. Derrière, il y a aussi le fait que Tim Cook a refusé de donner un chiffre quelconque sur les ventes de l'Apple Watch. Donc il y a eu plusieurs estimations, ils en ont vendu 3 millions, ils en ont vendu 4 millions, ils en ont vendu 5 millions, ils en ont vendu 0.1 milliard. Bon, avec une vente à $349, si tu vends 3 millions de Watch, en gros, tu as 1 milliard de revenus. Et quand il a annoncé, alors voilà, je ne vais pas vous dire combien j'ai vendu de montres, mais je vais vous dire que dans la catégorie autre qui inclut donc la,
les accessoires, les casques Beats, les casques,
l'Apple TV qui est le pire produit qu'Apple ait jamais vendu, peut-être la Watch, etc. En gros, c'est une catégorie qui a grossi de 1 milliard à 3,5 milliards, et donc tout le monde s'est dit, bon bah ok, à peu près c'est la Watch. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu donner les chiffres? Bah, tout le monde se dit, si les chiffres avaient été excellents, ils les auraient partagés. Ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas donner d'informations stratégiques à la compétition, ce que je trouve complètement débile. Donc, tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce que les résultats de la Watch, qu'ils clament étant excellents, n'ont pas été annoncés? Il y avait pas mal de rapports dans la presse que la demande de la Watch avait chuté de façon
vertigineuse.
Donc il y avait en gros un drop de 90% au mois de juin, et ils ont dit non, le mois de juin était la meilleure période de vente pour la Watch. Donc en gros, je pense que c'est un, le fait qu'ils ont délivré des résultats en ligne avec les attentes, deux, une estimation pour le prochain trimestre qui n'est pas aussi bonne que le marché l'avait espéré, et trois, le fait qu'ils n'aient pas vraiment communiqué sur la Watch.
Ouais, donc ça veut dire que le prix de l'action s'était déjà aligné sur les estimations des analystes pour le trimestre d'après, et donc comme au final les estimations étaient pas en ligne avec, enfin étaient pas en accord avec ce qui a été annoncé, on peut dire d'une certaine manière que le prix de l'action était un petit peu trop élevé par rapport à la réalité, quoi, ou en tout cas par rapport aux estimations d'Apple.
Voilà, par rapport aux attentes du marché. Mais bon, il faut savoir que Apple trade quand même avec des multiples qui sont assez vertigineux. C'est-à-dire que là, si tu veux, le marché est dans une pente descendante à cause du fait que la bourse chinoise a dégringolé de façon monstrueuse. Et si tu veux, là, je regarde Apple trade à $122, ce qui leur donne une petite market cap de $700 milliards.
Ouais. Bon, tu vois. Donc, oui. Hein, bon, en plus, à ce genre de niveau, il suffit qu'il y ait un truc qui change un paramètre quelque part et tout peut être transformé. Donc.
Sachant que par rapport au plus haut, qui était donc à 132,54 il y a le 18 mai, bon, l'action trade à peine à quelques pourcents en dessous, quoi. Donc, c'est pas la catastrophe, quoi.
D'accord. Et donc, entre parenthèses, on a entendu effectivement ces histoires d'Apple Watch. Il y a eu beaucoup de discussions. Une étude a montré, ou en tout cas a prétendu, une étude citée par Tim Cook, entre parenthèses, que les taux de satisfaction de l'Apple Watch étaient excellents, plus de 90%. Donc, il semblerait que les gens qui utilisent l'Apple Watch en sont satisfaits, mais c'était pas du tout mon cas et je connais beaucoup de gens qui n'en sont pas satisfaits, mais voilà. Et on a aussi entendu effectivement que Tim Cook avait dit que le démarrage de l'Apple Watch était plus important que celui de l'iPhone ou de l'iPad, qui évidemment, à l'époque, n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, mais avait fait des démarrages impressionnants. Donc bon, on verra ce que donne l'Apple Watch et ce que ça donnera à l'avenir. On ne va pas spéculer plus sur tout ça.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir... comment est-ce qu'ils vont définir satisfaction ? C'est-à-dire que est-ce que c'est satisfaction auprès des rares personnes qui continuent à utiliser l'Apple Watch au bout de quelques semaines ? Ou est-ce que c'est réellement la satisfaction de tous les gens qui en achètent une Apple Watch ? Parce que bon,
voilà, moi, c'est la grande question. Oui.
De façon empirique, donc franchement empirique, j'ai vu donc sur une vingtaine de copains qui ont acheté l'Apple Watch, déjà c'est relativement intéressant de voir que dans mon réseau de gens qui sont vraiment très early adopters, donc les gens qui vont se jeter sur une nouvelle technologie, tout le monde ne s'est pas jeté sur l'Apple Watch. Moi, étant un fanboy d'Apple, je n'ai pas d'Apple Watch. Et sur une vingtaine de personnes, tu vas en avoir peut-être 10 à 20% qui sont des grands fans et qui disent que l'Apple Watch a vraiment changé la façon dont ils vont gérer les notifications. Le problème qu'ils citent le plus souvent, c'est que comme ils passent leur temps en meeting à regarder leur montre, les gens ont l'impression qu'ils se font chier. Donc il y a un symptôme social qui fait que quand tu regardes ta montre trop souvent, t'es un gros malpoli. À peu près 10 à 20% ont vendu leur montre, et certains sous même pas sous quelques jours. Et en gros, au milieu, tu vas avoir à peu près 60% des gens qui la mettent pas tous les jours et qui te disent ouais, de temps en temps, je la mets, je la sors de son écran, mais franchement, j'en ai pas besoin au jour le jour.
Ouais. Bah, c'est un petit peu mon expérience aussi, j'en avais déjà parlé. JP, toi, l'Apple Watch, tu es intéressé, convaincu, utilisateur ou...
Pas du tout. En fait, j'ai une moto 360, j'avais une Peeble avant. Je suis un peu sur le même chemin que Cédric Bonnet. Je pense que l'erreur d'Apple, c'est d'avoir fait beaucoup trop de... ils ont bien réussi en fait. Ils ont fait énormément de teasing sur la montre, ils l'ont sorti en retard, et au final, ils n'ont pas amélioré là où on savait qu'il y avait des problèmes un petit peu partout. Du coup,
Sur les autres smartwatches, tu veux dire.
Oui, en termes d'autonomie, d'ergonomie, les problèmes de notification, etc., qui sont connus depuis un certain temps. Ils n'ont pas innové à ce niveau-là. Mais ils ont bien fait, parce que du coup, ils ont vendu plein de montres sans forcément avoir fait énormément de R&D sur ces problèmes qui bloquaient.
Ouais. Bon, on verra ce que ça donne effectivement pour moi. C'était ma théorie, hein, que les gens qui étaient déjà intéressés par des smartwatches, comme ça peut être ton cas, JP, ou celui de Cédric, ils auraient pu être intéressés par l'Apple Watch, mais les autres, ce qui était le gros marché à conquérir, n'a pas été séduit par le produit. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne avec la deuxième version de l'OS, on verra ça dans quelques mois quand cette version sortira. Entre parenthèses, la Tile Windows, c'est la tuile. J'aimerais remercier Pinkman qui m'a répondu sur Twitter, le premier à me répondre quand j'ai envoyé la question, et j'ai honte de ne pas m'en être souvenu. C'était la Windows tuile, qu'on parle. Mais ça ne correspond pas du tout à Windows 10. Windows 10 va être un succès total. Windows tuile, ça serait plutôt Windows 8, n'est-ce pas?
Juste en précisant un truc, donc j'ai vu hier soir pour la première fois la nouvelle pub pour l'Apple Watch, et donc tu vois quelqu'un qui... Et donc, ils ont essentiellement communiqué sur la partie sportif, activité, bougez les pas, donc clairement le segment Fitbit, que je connais évidemment très très bien.
Alors tu es investisseur chez Fitbit.
J'étais...
tu étais jusqu'à la sortie. Oui.
Jusqu'à... Bah non, en fait, parce qu'on y est encore pour un bout de temps. Mais donc, là où, quand tu regardais la pub d'Apple... qui est passé donc pendant des semaines à la télé, tu avais vraiment les différentes possibilités d'utilisation qui étaient illustrées. Là, c'était essentiellement communiqué sur l'activité, les messages, tu te bouges, machin, ça fait une demi-heure que tu es assis, etc., etc. Donc, il semblerait que Apple est en train d'essayer de recadrer sa communication pour gérer un des gros problèmes qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un utilisateur lambda, tu ne sais pas pourquoi tu achèterais une Apple Watch.
Oui, ils ont recentré leur communication, c'est sûr. On verra ce qui se passera avec la version 2. Hein. On a vu aussi qu'ils vont commencer à la vendre dans d'autres magasins que chez eux et dans les magasins de luxe. On a vu par exemple qu'aux États-Unis, ils allaient la vendre chez Best Buy, ce qui est on ne sait pas si c'était dans leur stratégie depuis le début, mais Best Buy, c'est un petit peu darty. Donc, on est en train de s'éloigner de la stratégie du luxe à tout prix, quoi. Dernière société...
Ça va être intéressant parce qu'on va avoir, les infos de Best Buy sur les ventes chez Best Buy. Donc, ça va être bien.
Effectivement. Donc, dernière société pour laquelle on veut faire un petit résumé de leurs annonces, c'est Amazon. Et là encore, on a quelque chose d'intéressant. Comme je le disais, je ne parle pas souvent de chiffres, mais là aussi, c'est assez significatif. Amazon a fait de meilleurs résultats pour le deuxième trimestre avec 23 milliards de dollars de revenus. Et ce qui est une progression de 20% d'une année sur l'autre. Rendez-vous compte, 20%, c'est incroyable. Hein. Et on a tendance à se dire, ils sont tellement monstrueux qu'ils peuvent pas. À qui ils vendent des trucs en plus, quoi. C'est vraiment. Moi personnellement, à vrai dire, depuis 2 ans, j'ai commencé à vraiment beaucoup utiliser Amazon, donc ils gagnent forcément des gens en plus toujours. Mais par contre, alors ils ont aussi annoncé des bénéfices. Je crois que c'était la première fois de leur histoire. Il brasse un argent monstrueux, mais Jeff Bezos a toujours la force de caractère de résister à la bourse et de réinvestir tout ce qui rentre pour assurer l'avenir de la société. Et là, pour la première fois, ils ont annoncé des bénéfices de 92 millions d'euros. Alors vous voyez, 23 milliards de revenus, 92 millions, c'est pas énorme hein, comme bénéfice. Mais c'était hyper significatif parce que ils ont sorti un petit peu d'argent et du coup, l'action a monté de 16% après cette annonce. C'était un événement quand même, j'imagine, dans la Silicon Valley, qu'ils sortent des bénéfices, non ?
Bah, ils sont à Seattle, donc en fait, c'est moins Silicon Valley quand même.
Ah oui, c'est vrai, mais j'oubliais. Non, mais enfin bon, Amazon, ça fait partie de la fraternité de l'Internet quand même.
Non, mais effectivement, comme tu disais, 20% de croissance et sortir pour la première fois des profits, sachant que Jeff Bezos, ça fait des années et des années qu'il réinvestit tout. Et surtout, c'est le progrès de son business de cloud, où en fait Amazon Web Services marche du feu de Dieu, où ça représente aujourd'hui des milliards et des milliards et des milliards de revenus.
Ouais, et ils ne font pas que vendre des trucs aux gens. Oui.
Et c'est ça. Et en fait, Amazon Web Services, c'est générateur de beaucoup plus de marge, puisque bon, ils ont la capacité de tirer franchement des profits et de la marge opérationnelle sur cette activité, alors qu'effectivement, Amazon est toujours excellent pour vendre les produits à très, très faible marge, mais avec un volume énorme au niveau e-commerce.
Ah, j'avais coupé mon micro, mais je suis de retour. Effectivement, et quand on dit énorme, leur capitalisation boursière est aujourd'hui plus grosse que celle de Walmart, qui est quoi, l'équivalent de Auchan en France, enfin la plus grosse chaîne de distribution. Oh,
Walmart, c'est si tu mettais Auchan et Carrefour ensemble.
Ouais. Ouais, donc voilà, assez impressionnant. Et on entend qu'ils seraient en train d'essayer de planifier, ou qu'ils sont déjà en train de planifier, des boutiques physiques où on peut aller retirer les trucs qu'on a... Enfin, des épiceries, en fait, où si on veut, on peut acheter en ligne et aller retirer, ou même aller acheter, peut-être, directement en boutique. Donc, est-ce que Amazon va commencer, on en entend parler depuis un moment, à aller chasser sur le terrain de la grande distribution en physique ? Peut-être qu'ils sont en train de préparer ça. Entre ça et les drones pour livrer, il y a des choses qui se passent tous les jours. Hein.
Ouais, c'est assez étonnant qu'ils fassent donc ce. Bon, ils avaient ce mouvement avec des services de livraison très rapides, Prime avec une livraison même jour dans certains endroits proches de leur centre de dispatch, de leur warehouse. Mais le fait qu'ils veuillent ouvrir du retail, c'est assez intéressant. On va voir comment ça va se goupiller.
JP, un commentaire sur Amazon, Apple, tout ce qu'on a dit avant qu'on
clôture cette... Sur Amazon, bon, je suis un grand fan depuis le tout début parce que je trouve que le principe est génial. Rappelez que le poids lourd en face d'Amazon, c'est Alibaba, donc avec un énorme marché aussi qui arrive. Et Amazon est vraiment impressionnant en termes d'infrastructure. Ils mettent leurs billes dans les bonnes technos. Le problème, c'est qu'ils les mettent surtout aux US et ils arrivent très peu en France. Donc Amazon Fresh, on n'y a pas droit. Amazon Echo, on n'y a pas droit. Amazon Button, on n'y a pas droit. Il y a beaucoup de choses qui testent sur le marché US et qui peinent à arriver en Europe.
Bon, on peut se dire qu'ils testent et qu'ils feront arriver ça plus tard. C'était le cas pour Prime, ça a fini par arriver. Donc, moi, je suis pas trop inquiet, mais bon. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les résultats. Je crois qu'on n'a pas oublié grand chose de super important. Donc, on va faire une petite pause.
Je peux juste mentionner quelque chose.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chose.
Oui, ah mais bien sûr, je t'en prie.
Donc, le lancement d'un compétiteur à Amazon, donc on parle d'Amazon, une boîte qui s'appelle Jet.com, qui a été capitalisée avec plusieurs centaines de millions de dollars par mes collègues, les VC. Et en fait, le pari de Jet, c'est de pouvoir battre Amazon son propre jeu et cette course vers les prix les plus bas. Et donc, en fait, sur des catégories qui sont des catégories de grosses ventes chez Amazon, ils veulent offrir des prix plus agressifs. Et c'est basé sur un modèle de souscription. Donc, tu peux prendre une souscription par an, donc à $49. Et après, tu vas avoir des
Amazon
prix...
Comme Amazon Prime, quoi.
Amazon Prime, c'est plus pour la livraison rapide. Là, la livraison est gratuite. Et en gros, le truc qui est rigolo, c'est que comme aujourd'hui, ils n'ont pas encore une grosse infrastructure de distribution, ils vont acheter, c'est-à-dire que tu passes un ordre chez Jet, une commande chez Jet, et après, ils vont aller commander chez Walmart, chez Amazon, chez Target, et t'envoyer tout ça dans une warehouse, et après te l'envoyer, ce qui veut dire que ça leur coûte un fric absolument monstrueux de servir ses clients. Je ne sais pas où ça va aller.
Comment ils vont faire pour gagner de l'argent ?
Eh ben, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est aux États-Unis.
C'est une sorte de dumping, mais.
Voilà, c'est de l'économies of scale, et tu as toujours des startups qui paraissent complètement débiles, qui sont fundées. Le dernier financement, ils l'ont fait à $3 milliards. Donc, en gros, une boîte qui est censée avoir du succès alors qu'ils viennent juste de se lancer la semaine dernière. Et donc, ça va être intéressant de voir si ça marche ou si ça se casse la gueule.
Ouais, c'est un petit peu étonnant quand même, parce que j'imagine que si c'était une catégorie qui émergeait, on pourrait se dire il faut faire tout ce qu'on peut pour prendre le marché, mais enfin là, on peut pas dire qu'il n'y ait pas déjà des mastodontes sur le... Bon, ok, bah Jet, peut-être qu'il faudra garder un coup d'œil dessus, effectivement. Donc, on fait une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs, et une petite pause pour remercier, comme toujours, les patriotes, les gens qui sont auditeurs de l'émission, comme vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, mais qui, eux, font un acte citoyen militant, en tout cas, qui décident de soutenir cette émission qu'ils apprécient. Et je voudrais donc remercier aujourd'hui Julien Patru, William Picard, Nathan Martineau, Julien Poirier, Christophe Maujoin, Yves Moile, Sébastien Dominé, Bruno Dinan, Jackito et Stéphane Jean-Renaud. Je crois que Jean-Renaud, c'est peut-être son prénom, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, merci à toi et merci à vous tous de contribuer au Rendez-vous Tech. Vous le savez, le système Patreon, c'est un système très simple. Vous allez sur le site, vous décidez combien de sous vous voulez donner au Rendez-vous Tech. Qu'est-ce que vous pensez que cette émission vaut ? 1 $, 2 $, 3 $, quelque chose comme ça. Et vous décidez de donner cette somme, et ensuite, à chaque fois que l'émission est publiée, en fin de mois, vous êtes facturé de cette petite somme, ou de cette grosse somme, si vous le voulez, et c'est comme ça que je mange. Et je voudrais mentionner le témoignage d'un patriote, qui est un jeune patriote, qui s'appelle William, que j'ai trouvé assez émouvant, qui est venu me dire que depuis qu'il sait qu'il finance l'émission, il a l'impression que l'écouter est encore plus présent qu'avant. Et je voulais le mentionner parce que moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup en étant moi-même soutien de différentes émissions. Quand il y a des émissions que je finance, quand j'écoute les nouveaux épisodes, je me dis « Ouais, bah ça, c'est fait grâce à moi. » Voilà, j'y participe. Et c'est aussi un peu grâce à moi que ça a pu être créé. Et du coup, moi, je participe à plein d'émissions. Hein, c'est un petit peu mon truc, mais... Ça donne un vrai sentiment de satisfaction, et comme j'y avais pas pensé jusqu'à ce que William le dise, et comme il l'a mentionné, je voulais le remercier en le mentionnant à mon tour ici. Et puis un autre petit mot rapide pour dire que les choses évoluent pour moi également en tant que podcasteur professionnel, puisque je suis en train d'étudier le passage à la, entre guillemets, vraie entreprise qui se profile à l'horizon. Beaucoup d'entre vous le savent, je suis encore auto-entrepreneur aujourd'hui, mais il va falloir passer en vraie entreprise parce que pour pérenniser la chose, parce que j'atteins les paliers, etc. je vous avoue, et donc ça devrait arriver dans les mois à venir, enfin avant la fin de l'année, donc je prépare ça, je vous avoue que ça me fout un petit peu les chocottes, hein, parce que quand on voit la transformation qui est nécessaire administrativement, et puis avec tout ce qui est le paiement de la TVA, les taxes patronales, les charges patronales, les charges salariales, les impôts, etc. Alors c'est le jeu, hein, je suis très content de les payer, mais... c'est un peu la fête est finie, quoi. Donc, je suis sûr que c'est pareil partout. Hein. Je suis pas en train de dire qu'en France ou aux États-Unis ou je sais pas quoi. Mais le passage en, c'est vraiment ce que je disais depuis le début, en fait. Là, la première année, ça se passe super bien et c'était le premier test. Mais il y a un deuxième test qui arrive après. C'est la pérennisation de l'opération. Et, comme je disais. Je suis là, ça, les choses deviennent, comme on dit en anglais, shit just got real. Et bon, ça vous fait marrer, Jeff et JP, parce que vous êtes entrepreneurs et vous côtoyez des entrepreneurs depuis longtemps. Mais moi, c'est un peu compliqué, quoi. On verra.
Non, mais c'est super, et bravo, bravo encore d'avoir eu, excuse-moi l'expression, les couilles de faire ça, de te lancer, parce que c'est pas évident, quoi. C'est jamais évident.
Ouais, bah oui, c'est vraiment, je suis en train de retrouver un petit peu le sentiment d'angoisse que j'avais avant de me lancer et quand vous m'avez très gentiment rattrapé, vous les Patriotes, et je suis en train de retrouver un tout petit peu ce sentiment d'angoisse. Je suis sûr que ça va bien se passer, mais on dira ouais, c'était cool de le faire une fois que je serai en vitesse de croisière. Là, je suis encore dans le décollage, donc on verra comment ça se passe. Toi aussi, JP, j'imagine que t'as eu des moments. Compliqué.
Ouais, franchement, félicitations Patrick, et puis t'inquiète pas, parce que moi c'était là, j'ai créé la startup il y a 6 mois, donc c'est les joies de la compta, de tout le jeu ça. De l'administratif, du jeune entreprise innovante, et puis tout ce qui se passe autour, mais c'est déjà super intéressant, et puis c'est pas si compliqué que ça.
Donc ouais, ça bah écoute, peut-être que je te passerai des coups de fil pour que tu m'aides un petit peu. Déjà rien que la compta, quand j'ai vu ce que ça coûtait, je me suis dit... bon, bref. Donc voilà, ça va être une transition intéressante. Je continuerai évidemment à vous tenir au courant de tout ça. Passons aux news et rumeurs. Jeff, tu nous dis quand tu dois filer pour faire des choses super importantes dans la Silicon Valley.
J'ai encore 3 minutes.
Très bien. Eh ben écoute, 3 minutes, c'est le temps qu'il me faut pour dire que les sages du Conseil constitutionnel ont validé la loi sur l'enseignement à, 95%. Et alors, on a eu toutes sortes de réactions. Mon pote Corben, enfin notre ami Corben qui vient dans l'émission, a titré « Big Cazeneuve est maintenant une réalité ». Les FAI, l'AFA, qui est l'Association des fournisseurs d'accès et de services, a dit que les sages avaient manqué leur rendez-vous avec l'histoire. On a eu des informations ou des rumeurs selon lesquelles la France espionnait déjà tout le monde sur les fibres optiques, comme c'était le cas. Et donc, c'était une légitimisation, une légalisation de ce qu'ils faisaient déjà. J'ai dit très clairement et très longuement ce que je pensais de cette loi. Je suis toujours extrêmement inquiet parce que ça veut dire, je pense que c'est une grosse erreur. Mais par contre, je pense aussi que je vais en surprendre certains par ma réaction aujourd'hui, qui est que... alors, on a des recours encore avec l'Europe et on a la Quadrature du Net, par exemple, qui est une association qui œuvre pour que l'Internet soit bien utilisé par les gouvernements. Et moi, on parlait de financement, je donne des sous à la Quadrature du Net aussi tous les ans pour être sûr qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Donc ça, c'est important aussi. Mais d'un autre côté, ma réaction personnelle aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut un petit peu l'accepter, mine de rien. Encore une fois, on continue à faire les recours plutôt, mais au jour d'aujourd'hui, pas au jour d'aujourd'hui, je vais me faire engueuler si je dis ça, mais aujourd'hui, le processus démocratique, il a fonctionné. On a une loi qui a été votée de manière démocratique. Je pense que les députés n'ont pas compris les implications de cette loi, mais il n'empêche qu'ils les ont votées en leur âme et conscience. On a fait de l'information autant qu'on pouvait. On en a parlé de cette histoire. C'est pas un truc qui est passé en douce. Les gens ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas. Le Conseil constitutionnel a pris, à mon sens, la mauvaise décision, mais il a été saisi. Il a dit que la chose était constitutionnelle, comme je le disais, à 95%. Et donc, c'est le jeu de la démocratie, c'est le jeu de la République. On ne peut pas être content quand... on ne peut pas n'être content que quand il y a quelque... Enfin, pardon, on ne peut pas accepter les choses que quand ces choses-là sont des choses avec lesquelles on est d'accord. Le principe de la démocratie, c'est que quand on a quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord, même si c'est passé, même si, je veux dire, à partir du moment où c'est passé par le processus démocratique, eh ben, il faut aussi l'accepter parce que c'est la volonté du peuple qui s'est exprimée par les députés. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Moi, j'étais satisfait, par exemple, du mariage pour tous il y a quelques mois ou quelques années. Je sais qu'il y avait beaucoup de Français qui n'étaient pas en accord avec cette politique, cette vision de notre société. Eh ben, on leur disait, c'est comme ça maintenant parce que ça a été voté et c'est le jeu de la démocratie. Ben voilà, on peut pas dire ça à un moment et puis ensuite se retourner quand on n'est pas d'accord avec la loi qui a été votée. Donc on continue les recours, on continue le fait d'essayer de passer par le processus démocratique pour faire comprendre les dangers de cette loi, mais aujourd'hui les choses sont comme ça. Donc moi je suis pas résigné, mais j'accepte cette chose. C'est dans ce pays qu'on vit. Je pense que la liberté du peuple français a été un petit peu diminuée par cette décision, mais c'est le choix que nous avons fait par ce processus démocratique. Donc il faut que ça soit le choix pour tout le monde, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est pas du défaitisme, hein, mais voilà ce que j'en pense. Pas de commentaires des deux autres?
Moi, je suis comme toi contre la surveillance de masse, mais le côté positif des choses, c'est que ça va aussi nous protéger contre l'espionnage extérieur et renforcer nos infrastructures.
Alors là, je suis pas. Oui, si tu le dis.
En fait, c'est le principe. Moi, j'ai vu le côté des entreprises avec le Patriot Act, où les entreprises françaises refusaient d'être sur des serveurs américains parce qu'avec le Patriot Act, ils pouvaient se faire espionner et c'était des grandes banques. Donc, d'avoir notre propre système, ça peut peut-être aider à nous protéger un petit peu.
Bon, le bon côté du truc. Jeff, avant de nous quitter, une réaction sur la chose, comme on l'a vu aux US ou je sais pas.
Ouais, c'est toujours problématique, au sens où soit tu essaies de limiter l'entrave aux libertés personnelles et après tu te retrouves dans des situations où tu souhaites que tu avais pu hacker la mailbox du terroriste, etc. Et puis derrière, une fois que quelque chose se passe, tu vas overboard et tu passes des lois qui vont trop loin. Et donc je pense que comme en tout, il faut balancer les choses.
Équilibrer. Ouais.
Et équilibrer. Balancer, ça se dit, non ? Équilibrer, okay. Équilibrer.
Pas dans ce contexte, je crois. Mais...
Ok. Et faut voir un petit peu. Enfin, je pense que il faut essayer d'être ouvert sur les évolutions de ces lois et les retoucher tous les 3, 6 mois, 8, 12 mois pour voir quelle était la bonne chose. Mmh. Mais tu peux pas ne pas avoir un ensemble de lois qui vont régir ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux, Internet, l'email sont devenus des facteurs majeurs de communication pour les terroristes et les gens qui... Et c'est pas seulement les terroristes, c'est aussi les vendeurs de drogue, etc., les malfaiteurs en général, et il faut pouvoir l'utiliser.
Je crois que la grande préoccupation de tout le monde et la réponse au Conseil constitutionnel, c'était cette question de décision qui n'était pas soumise à la décision d'un juge, finalement. Et bon... On va pas refaire le débat, mais effectivement, maintenant, les choses sont passées. Donc, le débat, le combat continuera, c'est certain, mais par d'autres types de recours et par des organisations comme la Quadrature du Net. Je pense que si on veut continuer ce combat, c'est par cet intermédiaire. Jeff, je crois que tu dois filer.
Yep.
Eh ben, écoute...
Merci encore de m'avoir ramené sur le rendez-vous tech. C'était un plaisir après quelques mois de faire l'émission avec vous. Et puis, on se retrouve, j'espère, le mois prochain.
Avec grand plaisir et merci pour tes éclairages et bonne continuation.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Ciao Jeff.
Salut.
Alors, on continue maintenant avec un petit peu de... On se tourne vers l'avenir. Ça, ce sont deux sujets que tu m'as envoyés quand on préparait l'émission. Le premier, c'était cette histoire de technologie de vision stéréo avec des images statiques qui étaient animées. Je comprends rien. De quoi s'agit-il ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement ?
Alors, juste pour expliquer un petit peu de contexte, depuis 30 ans en informatique, on parle de réseaux de neurones qui servent à faire l'intelligence du futur. Et il y a eu énormément d'avancées en termes de recherche, et en 2014-2015, on a beaucoup d'évolutions qui sont faites sur le traitement d'images. Et on commence à voir apparaître dans la presse ce genre de choses. Tu en as parlé dans le rendez-vous tech précédent avec Google, qui est capable de mettre des catégories sur les photos, pour savoir que s'il y a un chien, un chat sur telle ou telle image. Et là, ça continue. C'est-à-dire que, à partir d'un ensemble de photos, il y a des algorithmes qui sont capables de construire une vidéo, en remplissant les manques qu'il y a d'une photo à l'autre. Donc on crée carrément de la donnée. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo est assez bluffante. Et si vous voulez voir une version vulgarisée de tout ce jargon, il y a un TED Talk de Fei-Fei Li qui montre où on en est en 2015 et comment ça révolutionne les choses. Et ça va révolutionner votre quotidien parce que Yann Lequin, je crois qu'on en parlait dans un autre rendez-vous tech, est un ingénieur de chez Facebook qui est capable de faire justement de la reconnaissance d'image, mais aussi d'action dans les images, comprendre tout ce qui se passe derrière une image juste en regardant l'image. Et il travaille chez Facebook, ils ont ouvert un labo R&D sur Paris. Et donc l'avenir nous promet la capacité de savoir ce qui se passe dans toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube.
C'est un truc qui est assez saisissant. Pour trouver la vidéo de Fei-Fei Li, vous pouvez taper donc soit Fei-Fei Li, F-E-I-F-E-I-L-I, soit How We're Teaching Computers to Understand Pictures, comment nous apprenons aux ordinateurs à comprendre les images. Et la vidéo que tu m'avais montrée, c'était Deep Stereo, Learning to Predict New Views from the World's Images. Et en fait, ce que ça fait pour vous expliquer, c'est que, comme tu le disais, ils prennent différentes images. Par exemple, il montre des exemples sur un couloir, je crois que c'est à Versailles, en tout cas dans un château, un couloir pour lequel ils ont différents clichés qui ont été pris à différents endroits du couloir, et ils créent à partir de ces clichés une sorte de travelling qui va comme ça, un travelling arrière qui fait tout le couloir et qui est véritablement une vidéo animée comme si on avait créé une vidéo, alors que là c'est fait uniquement avec des photos et les ordinateurs remplissent les images manquantes, les données manquantes pour créer ce travelling en vidéo. C'est absolument fou, c'est saisissant et on se prend à penser que quand on a on a des images un petit peu partout sur Google Earth ou des images qui sont géotaguées et rendues publiques qu'on peut avoir de différentes choses, on peut créer des vidéos, ça c'est le tout début, mais on pourra créer des vidéos pour visiter ces endroits à partir de données très fragmentées que ne sont que des photos. C'est assez incroyable, quoi. Comme
je pense que Street View, typiquement, c'est un très bon usage où les Google Cars prennent une photo tous les X mètres. On pourrait peut-être pouvoir voir la vidéo de ce qui se passe sur la Terre entière grâce aux images de Google Cars. Il y a Microsoft qui avait aussi fait beaucoup de travaux avec Photosynth, où on prenait plein de photos et on fabriquait un objet, enfin une vue en 3D dans laquelle on pouvait se déplacer. Donc c'est assez saisissant.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un autre élément dont tu parlais avec les réseaux neuronaux qui reconnaissent ce qu'il y a sur les photos. C'est un chien, c'est un chat, c'est une personne, c'est un etc. C'est un paysage, c'est une table. Et maintenant, ces réseaux neuronaux réussissent non pas à reconnaître de quoi il s'agit, mais ce qui se passe dans la photo. Donc, par exemple, il y a des tests qui ont été montrés, c'est toujours chez Google, si je ne m'abuse, des tests qui ont été montrés avec l'ordinateur qui essaye de décrire la scène qu'il y a sur la photo et pas juste un élément dire de quoi il s'agit. Il y a, par exemple, une image avec des gens qui sont déguisés en zombies qui marchent dans la rue, et le meilleur résultat, c'était, je traduis en direct, hein, mais un groupe de personnes qui marchent dans une ville, dans la rue d'une ville, habillées en zombies. Mais enfin, c'est invraisemblable qu'ils réussissent à reconnaître ça. Peut-être que c'est le meilleur exemple qu'ils avaient trouvé, mais ils en ont montré d'autres. Et il y en avait pas mal, quoi. Du genre, un homme qui utilise son ordinateur avec un chat assis sur ses genoux. C'est vraiment comme ça? Ça marche comme ça?
Oui, et en plus, alors c'est une vidéo plus obscure de Yann Lequin qui fait une démo. Ça marche en temps réel sur un portable.
Non,
ce qui fait qu'en temps réel, il est capable de reconnaître ce qui se passe. Pour les auditeurs que ça intéresse, qui sont sur Paris, il y a un meet-up qui s'appelle Paris Machine Learning qui aborde tous ces sujets. Et là, ça remonte au niveau du grand public sur des images, ce genre de choses. Mais c'est vraiment appliqué à tous les domaines. J'avais vu une conférence où ils regardaient les images de plancton et ça permettait de déterminer le taux de pollution de l'océan. En prenant juste une photo de l'océan et de la quantité de plancton.
Oh là là. Mais il y a un truc, tu sais, que ça m'évoque. On parlait de Cortana et des assistants personnels virtuels tout à l'heure. C'est ce genre de choses qui font que les progrès que sont en train de faire ces assistants sont... En fait, c'est des progrès dont on ne se rend pas compte, mais qui tout d'un coup vont transformer un petit peu tout, quoi. Imaginez, ça veut dire que ce genre de recherche, ça veut dire qu'un ordinateur peut comprendre ce qu'il y a dans une photo et savoir tous les éléments. Et donc, on va pouvoir... Cette intelligence va être transférée vers ces assistants qui vont connecter tous ces éléments d'intelligence artificielle en même temps. Alors, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que Skynet n'est pas loin, je crois.
Pour te donner un exemple juste tout simple, Google a acheté Nest. Nest fait Dropcam. Dropcam, c'est une caméra qui filme chez les gens en permanence. Google a fait Tango. Tango, c'est une caméra qui est capable de numériser en 3D un environnement. Et Google a ses algorithmes qui savent reconnaître ce qui se passe dans une pièce. Donc quand tu croises les trois, Google est potentiellement capable de numériser n'importe quel habitat en comprenant ce qui se passe. Voilà, ça laisse réfléchir. Oui.
Et du coup, la suite logique, c'est forcément les robots dont tu voulais nous parler aussi. Et du coup, je te laisse la parole.
Alors, on a une explosion des robots. En fait, en 2012, Obama avait fait un speech en disant « Attention, vous allez perdre vos emplois et ils seront remplacés par les robots ». Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Aldébaran Robotics, c'est une société française qui fait 3 robots qui, malheureusement, s'est fait racheter par des Japonais et qui commercialise Pepper, dont on avait parlé dans un autre rendez-vous tech, qui est un robot d'assistance aux personnes âgées. Et ce qui est amusant, c'est que ces robots humanoïdes ont les mêmes problèmes que les robots, que nous, les humains. Ils ont des tendinites parce qu'ils portent des choses trop lourdes. Ils ont plein de problèmes physiques comme ça qu'il faut régler. Et donc, c'est ça. Et l'autre anecdote, c'est que on parle de robots humanoïdes, mais très souvent pour résoudre un problème, un robot classique fait très bien le travail. Et j'avais entendu l'histoire de McDonald's, qui est pas une société qui vend de la nourriture, mais une société qui fait de l'immobilier, parce que stratégiquement, il faut positionner les magasins McDo aux bons endroits au bon prix. Et le fait de faire un robot qui fait des hamburgers, c'était l'idée d'une start-up, ça fait gagner plein de mètres carrés de cuisine et d'humains. Pour un résultat d'hamburger qui est très précis parce que le tranché est toujours le même, etc. Et donc qui intéresse énormément McDo. Et comment, comme ça, un robot commence à remplacer aussi des humains?
C'est une tendance qui existait déjà avec l'industrialisation en général. Je me souviens d'un article où qui était franchement pas... Moi, je l'ai pas trouvé hyper pertinent, mais il y avait un test pour savoir si votre emploi allait être menacé d'être remplacé par un robot. Le pourcentage de chances que à quelques années vous soyez remplacé par un robot. Moi, j'avais fait le test avec j'avais mis journaliste pour approximer. A priori, ça allait, analyste. Ça va à peu près. Donc, je suis tranquille. On rigole, mais je pense que ça donnera, j'espère, surtout l'occasion aux gens de se consacrer à des tâches un petit peu plus intéressantes que le fait de travailler au McDo, par exemple. Hein. On a ces problèmes depuis, comme on le disait, des décennies, des robots qui remplacent les êtres humains. Et du coup, qu'est-ce que ça fait pour la société? On s'est rendu compte qu'à chaque fois, la société s'orientait vers quelque chose d'autre pour le travail des humains, plus de services, ce genre de choses. Donc, moi, je suis pas horriblement inquiet, mais dans l'un des articles que tu m'avais transmis, il y avait quelques notes assez intéressantes. J'en ai noté trois. La première, c'était une question qui m'a intrigué. C'était, faut-il que les robots prennent soin de ceux que nous aimons ? Ou est-ce qu'il faut qu'ils travaillent pour que nous puissions prendre soins de ceux que nous aimons ? C'est-à-dire, est-ce que les robots doivent prendre soin des gens directement ou est-ce qu'il faut que les robots travaillent pour que nous puissions prendre soin des gens que nous aimons ? C'est une question qui est presque philosophique, mais qui est assez intéressante. À propos de philosophie, il y avait une autre mention du fait que depuis 2012, l'Union européenne a financé un projet qui s'appelle RoboLaw, qui est pour étudier les implications sociales et juridiques et éthiques du développement des technologies robotiques, ce qui peut paraître être un petit peu de la science-fiction, mais comme on le voit, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et enfin, la dernière réflexion qui m'a paru extrêmement intéressante, c'était le fait que nous avions un véritable défi culturel en Europe, parce qu'en Asie, en fait, les gens aiment bien les robots et ils les considèrent comme des amis. Alors qu'en Europe, on a une certaine défiance vis-à-vis des robots et on a tendance à considérer qu'ils vont se rebeller contre nous, qu'ils vont devenir des ennemis. Et donc, on peut avoir un désavantage culturel, finalement, par ce fait qu'on ne fait pas confiance aux robots. Donc, voilà, j'avais trouvé toutes ces réflexions assez intéressantes et je voulais vous les partager.
C'est le chien robot de Sony Sony a arrêté le support de ces chiens qui ont été créés en 2000. Et du coup,
j'étais au Japon quand ils sont sortis. Je me souviens plus du nom du chien robot.
Il y avait Aibo. Et du coup, il y a des zones funéraires pour ces pauvres robots qui n'auront pas de pièces détachées de rechange, mais qui étaient vraiment, qui réussissaient à passer une émotion qui fait que c'était vraiment très intéressant. Ouais. Sur l'aspect légal des choses, je pense qu'ils s'emportent un petit peu trop. Il y a toujours la question, si une voiture autonome doit faire le choix entre vous tuer ou taper une autre voiture et provoquer un accident qui fait N mort, qu'est-ce que doit faire comme choix la voiture ? Et au final, les choix, ils sont arbitraires et on peut pas mettre de loi autour de ça. C'est toujours la responsabilité du conducteur derrière.
Ah bah oui, mais il y a quand même la question qui va se poser à un moment pour la personne qui va écrire l'algorithme. Donc il faut se poser la question, on peut pas juste dire tu vois, quand on est dans une voiture normale, il se passe ce qui se passe. Mais quand c'est une voiture qui est programmée pour conduire, il faut bien déterminer ses paramètres dans le programme.
Oui, mais ce sera...
C'est pas pour tout de suite.
Je pense que... Oh si, ça va arriver vite, mais je pense que très rapidement, le choix final va être fait par l'humain. Parce que s'il y a un choix arbitraire qui est fait, il y aura un choix arbitraire, mais on pourra pas le reprocher.
Mais oui, mais c'est pas possible. Si t'es en train de conduire à 50 km/h, ce qui est pas très rapide, mais tu peux pas prendre la décision si la voiture est en train de conduire pour toi, qu'il se passe quelque chose, c'est pas l'humain qui va prendre la décision, c'est pas le conducteur, puisque la voiture est en train de conduire. C'est l'algorithme.
L'algorithme, il y aura un choix arbitraire qui sera certainement de faire dans le meilleur des cas, mais bon, ça plaira pas forcément au conducteur.
Mais c'est pas Two-Face de Batman. L'algorithme, il va pas jeter une pièce en l'air et jouer à pile ou face, quoi. Il faut. Enfin bon, on a pas la réponse, mais justement à propos de voitures qui peuvent se faire hacker, on a eu une histoire qui a fait pas mal de bruit d'une Jeep Cherokee de Chrysler qui a été une équipe de Wired, enfin une équipe de chercheurs en sécurité pour Wired a pris le contrôle de cette voiture à distance. C'était assez inquiétant parce que on sait que généralement les systèmes des voitures comme les systèmes des avions, ce genre de choses. En fait, il y en a deux. Il y a le système qui contrôle les fonctionnalités moteurs de la voiture et le système qui contrôle des choses comme la radio ou le système de l'entertainment de la voiture. Et normalement, ils ne sont pas vraiment liés, ces deux systèmes. Alors que en réalité, ce que nous disent les constructeurs, c'est qu'ils n'ont pas le système qui est moins sécurisé, où vous allez brancher votre iPhone ou votre Android ou ce genre de choses, n'a pas de moyen d'influencer le système les systèmes critiques du véhicule. Donc ils peuvent juste influencer, ils peuvent juste lire les données des systèmes critiques pour savoir, par exemple, à quelle vitesse vous allez, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs ont réussi à communiquer sans fil avec le système d'entertainment de la voiture, à reprogrammer ce système et à, du coup, influencer le système critique. En l'occurrence, ils ont réussi à désactiver les freins, si je ne m'abuse. Ils influençaient les freins. Alors, évidemment, cette histoire a fait énormément de bruit. Chrysler a rappelé, il y a quelques jours, 1,4 million de voitures pour mettre à jour le programme et combler cette faille de sécurité. Mais est-ce que ça veut dire que demain, ça y est, toutes les voitures qui ont ce type de système vont pouvoir être hackées et on va avoir des accidents partout sur les autoroutes ? Est-ce que c'est le moment de paniquer, JP ?
Non, je pense que la réponse, en fait, c'est surtout un effet pour avertir sur le fait que la sécurité, c'est toujours très important. Maintenant, il n'y a pas de sécurité ultime. Parfois aussi, c'est toujours plus simple d'aller couper les freins avec une bonne clé, enfin une bonne pince, plutôt que de s'embêter à hacker avec un programme très compliqué. Maintenant, voilà, c'est bien. Il faut alerter, faire du buzz sur ce sujet-là pour que les constructeurs automobiles fassent attention. Je pense qu'ils sont assez prévenus. Quand j'ai voulu brancher Sarah à la Zoé de Renault, il faut savoir que la Zoé, elle contacte le serveur de Renault toutes les 5 minutes et on ne peut que poser des questions au serveur de Renault, pas à la voiture. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Et rien que comme ça, quand on appelle Renault par les différents services, on se fait jeter parce que « Oh mon Dieu, vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas prévu. » Ah non, c'est totalement impossible.
Tu veux dire quand tu mets un programme qui appelle Renault ou...
Quand tu veux. Moi, ce que je voulais, c'était afficher sur ma télévision en disant « Sarah, quel est le niveau de la batterie ?» Afficher le niveau de la batterie de la Zoé. C'est possible avec une application Android. Et donc, je voulais juste faire la même chose. Légalement, sans décompiler l'application Android. Et quand j'ai posé la question à Renault, ils m'ont dit « Oh non, c'est pas possible, c'est ultra sécurisé, c'est totalement... impossible. » Donc, ils sont sensibilisés aux problématiques de sécurité et je pense qu'ils verrouillent bien les choses.
D'accord.
Et, voilà. Et pour même pire que ça, pour ce véhicule qui est censé générer des logs, donc un journal de ce qui s'est passé sur le véhicule, eh bien, on s'est rendu compte que Renault n'avait pas énormément d'informations sur ce qui s'est passé. On a eu une panne et ils n'arrivaient pas à avoir accès aux informations eux-mêmes.
Donc c'est bien sécurisé en fait.
Oui.
Ce qu'il faut noter aussi, c'est que sur ce hack du véhicule là de Chrysler, de la Jeep, il est probable que le hacker avait eu accès à la voiture avant. C'est pas que la voiture passait et puis que il a scanné le Wi-Fi et qu'il a trouvé le Wi-Fi de la voiture au moment où elle passait. A priori, il avait eu accès au véhicule et il avait réussi à trouver un identifiant spécifique de cette voiture. Donc, c'est pas que il peut se mettre sur au-dessus de l'autoroute et arrêter les freins des voitures qui passent, quoi. Donc, c'était quand même un hack un peu spécifique. On n'a pas toutes les données, mais il annonçait qu'il voulait révéler les détails du hack. Je crois que c'était un salon. Qui arrive. Il n'est pas certain qu'il ait le droit de le faire ou qu'il décide de le faire, parce qu'ils sont quand même un petit peu responsables dans l'histoire. Comme tu le disais, la bonne leçon, c'est que ça sensibilise les gens et les constructeurs à ces problèmes. Donc, on peut espérer que ils ne prendront pas de risques de ce type-là à l'avenir. On verra en tout cas si ça a un effet. Ce qui est certain, c'est que les gens qui ont pris des risques, ce sont les gens du site Ashley Madison. Est-ce que tu connais Ashley Madison, JP ?
Pas du tout.
Ah, oh, il a bien joué son coup. Ashley Madison, c'est un site qui est une sorte de site de rencontre pour les gens qui veulent avoir une aventure extramaritale. Ce qui est évidemment moralement hautement répréhensible. J'avoue que moi, j'ai vu ces sites, il y en a plusieurs, hein, j'ai vu ces sites arriver et faire des énormes pubs dans le métro de Paris, par exemple, où ils disaient effectivement sur les pubs, voilà, site de rencontre, venez avoir une aventure, votre mari n'en saura rien, votre femme ne le saura jamais, machin. Et moi, ça me mettait quand même un petit peu mal à l'aise, même si j'essaye de pas porter de jugement de valeur sur ce que font les gens. Après tout, c'est leurs histoires. c'était quand même un petit peu, enfin, quand on est marié, effectivement, quand on est dans une relation de confiance, le fait de dire on va vous aider à mentir à votre partenaire, bah oui, ça mettait un petit peu mal à l'aise. Eh ben, figurez-vous que ce site a été hacké, le site Ashley Madison spécifiquement et d'autres auraient été hackés et les données de 37 millions d'utilisateurs auraient été compromises. C'est-à-dire que les hackers qui l'ont fait, on ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils l'ont fait, mais ils disaient voilà, votre site est hautement immoral et donc vous vous êtes fait hacker, on va livrer les données, les informations de tous vos 37 millions d'utilisateurs, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, 37 millions d'utilisateurs, et tac, bien fait pour vous, ça fait quand même, pour les gens qui sont allés sur le site et qui, entre parenthèses, ont utilisé leur vrai nom en allant sur le site, c'est déjà pas malin, je pense qu'il y en a qui doivent suer à grosses gouttes en ce moment. Les données n'ont pas encore été rendues publiques, mais ça risque d'arriver, quoi.
Oui, c'est assez. Enfin, il y a de plus en plus de hacks en ce moment. Il faut vraiment mettre l'accent sur la sécurité. Pour la petite anecdote, tu parlais des affiches là qui avaient été placées de ces sites-là. Mm-hmm. À Versailles, ça a été interdit. Il y a les Versaillais qui se sont indignés et qui ont dit que c'était interdit. Et la réponse de la société par rapport à ça, c'est qu'ils ont sorti les logs et les stats de leur application.
Et donc, ils ont dit combien il y avait d'utilisateurs qui habitaient Versailles.
Exactement. Il y avait une très grosse proportion de Versaillais par rapport aux autres.
C'est toujours ceux qui crient le plus fort qui sont les premiers coupables. Hein. Yeah. Bon, bah, Moi, je n'ai pas utilisé ce genre de truc. Je suis très heureux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon deuxième anniversaire de mariage. Ma femme est en Finlande, malheureusement, donc on n'a pas pu fêter ça ensemble. Mais deuxième anniversaire de mariage, donc j'en profite. J'en ai profité sur Twitter. Merci beaucoup, JP. J'en ai profité pour le dire sur Twitter. C'est 2 ans de bonheur, 6 ans qu'on se connaît, de bonheur absolument infini, et je suis incroyablement reconnaissant d'avoir rencontré ma femme. C'est, comme je le disais sur Twitter, la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est peut-être aussi un peu pour ça que quand je vois les trucs comme Ashley Madison, je me dis, ouais, je trouve ça un peu bizarre, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des relations un petit peu plus malheureuses et que c'est leur seul moyen de s'échapper, ou je sais pas. Je me dis, quand on connaît pas les gens, on connaît pas les problèmes, vaut mieux pas porter de jugement de valeur, mais bon.
Un divorce sur deux en région parisienne.
Ouais, ouais, voilà. Et je pense que, bon, là on parle de complètement autre chose, donc je vais m'arrêter, mais la chose à dire, c'est que Ashley Madison, qui prétendait que quand vous payez pour effacer vos données, elles étaient totalement supprimées de leur site, vous payez à peu près $20, je crois, pour supprimer les données, pour supprimer votre compte, et ben il se trouve qu'ils n'effaçaient pas vraiment les données, et selon les hackers, ils ont aussi récupéré les données des gens qui pensaient avoir effacé leur compte. Super la sécurité, super Ashley Madison. Entre parenthèses, ils avaient aussi des sites de cougars pour les femmes âgées qui voulaient des hommes plus jeunes et un site qui s'appelait Established Men pour les hommes un peu plus âgés qui voulaient des femmes plus jeunes. Eh ben, c'est du propre, hein. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans tous ces domaines. Il y a aussi, peut-être, enfin, tout le monde prie, tous les technophiles joignent leurs mains et espèrent que ça se produira, la fin de Flash qui pourrait arriver. Vous savez, Flash, ce logiciel des années 90 peut-être, qui permettait d'ajouter des fonctionnalités au site web qu'il n'avait pas il y a donc 2 décennies, mais qui aujourd'hui est une sorte de nid de bugs et de hacks justement absolument infernal, qui n'arrive pas à être maintenu par son éditeur Adobe. Le chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, a mis un petit peu le feu aux poudres en déclarant publiquement quelque chose d'assez presque agressif, en disant qu'il était temps qu'Adobe annonce ses projets pour la fin de vie de Flash, donc pas qu'ils l'arrêtent tout de suite, mais qu'ils disent, voilà, dans 18 mois, 24 mois, Adobe Flash va être, ne sera plus supporté et doit arriver en fin de vie. Il y a plusieurs acteurs du net qui ont suivi, qui ont embrayé le pas, ça a amené un petit peu de commentaires sur le net. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment on sente arriver la fin de Flash. En tout cas aujourd'hui, les choses sont clairement dites. Flash, on n'en veut plus. Quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas, mais c'est sur le chemin de la fin, quoi.
Le rendez-vous tech, l'épisode du renouveau, parce que entre Windows 10 qui va permettre de enfin virer IE 6, surtout en entreprise, et là, le fait de pouvoir enfin virer Flash, qui était une verrue, mais qui a vraiment fait son travail pendant des années, ça va nous permettre d'avoir un web beaucoup plus propre. C'est vraiment une très bonne chose.
Bon, on avait quelques autres sujets, mais qui au final me paraissent pas ultra importants. Je voudrais juste en citer peut-être deux. Le premier, c'est le fait que Bruxelles serait en train de s'attaquer au géoblocage pour les œuvres cinématographiques en Europe. C'est-à-dire que dans l'esprit du marché unique, il y aurait une initiative pour que si un film ou une production cinématographique est disponible quelque part en Europe, elle soit également disponible dans les autres pays européens. Ça serait évidemment une bonne chose, économiquement, parce que ça permettrait de dynamiser un petit peu le marché unique dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui c'est infernal. Si on veut faire quelque chose là-dedans, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il y a des licences accordées à tel ou tel pays dans telle ou telle condition, avec les fenêtres de diffusion, etc., qui sont infernales. Espérons que Bruxelles se décarcasse pour trouver une solution à tout ça. Et une autre chose, est-ce que tu as suivi l'histoire de Breakthrough Listen en bon français ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et en fait, c'est une initiative qui a été annoncée par Stephen Hawking pour renouveler le projet. Oui, ah oui. Ça te dit chose, ça y est ?
Ça me dit quelque chose, oui.
Alors, tu pourras me dire si je dis des bêtises. En fait, c'est un projet pour renouveler l'idée d'écouter ce qui se passe dans l'espace, en fait, pour essayer de détecter de la vie intelligente dans l'espace en écoutant toutes les fréquences radio dans l'espace infini. C'est une initiative qui n'est pas initiée par Stephen Hawking, mais par énormément de scientifiques de la planète, des astrophysiciens, des mathématiciens, etc., etc. C'est un projet qui a déjà 100 millions de dollars dans les sacs et qui risque, si j'ai bien compris, d'adopter une méthode de de calcul participatif finalement, comme les projets Fold It et SETI at Home, et Fold It at Home pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, qui permettront donc d'avoir un logiciel qui va permettre d'analyser en temps réel les fréquences radio qui seront attribuées à différents ordinateurs qui auront installé ce programme, et donc de mettre en commun toutes les puissances de plein d'ordinateurs, de millions d'ordinateurs dans le monde, pour essayer de trouver des signaux de vie intelligente dans l'univers. C'est quelque chose qu'on a un petit peu délaissé ces dernières années, mais qui est hyper enthousiasmant, et j'espère vraiment que ça va... que ça va nous raviver cet intérêt pour l'espace qui est un petit peu... qui recommence à venir avec les efforts de la NASA de marketing depuis qu'ils ont moins d'argent de l'État américain, et du coup ils sont redevenus cool avec toutes sortes d'initiatives incroyables, et donc l'espace est en train de redevenir cool. Moi ça me plaît pas mal, quoi, cette histoire.
Sur le même sujet, je vous invite à écouter aussi un TED Talk sur le futur de l'exploration spatiale, où ils expliquent qu'en fait on ne partira pas avec un vaisseau spatial parce que c'est compliqué, on ne sait pas voyager vite et bien, mais par plein des millions de petites micro-machines qui vont partir pour explorer l'espace et qui ne seront pas contraintes à toutes les problématiques de gravité, etc. Ils prenaient l'image par exemple de l'araignée qui est capable de marcher sur l'eau parce qu'elle pèse très peu, et du coup on est sur des phénomènes physiques qui sont complètement différents. Et donc ce TED Talk explique que l'avenir, ce sera envoyer des millions de machines dans l'espace qui auront la capacité d'aller plus loin, plus vite, et qui vont discuter entre elles pour aller explorer.
Intéressant, ça. Je me souviens d'une théorie, je ne sais plus quel est le nom de cette théorie, qui prouverait qu'il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers, parce que justement, s'il y en avait une, elle aurait envoyé des robots qui s'auto-répliquaient, qui s'auto-reproduisaient dans l'univers, et que par expansion logarithmique, plus tu en as, plus ils se reproduisent, Et donc très vite, on se met à explorer tout l'univers. Et ben, s'il y en avait, cette méthode est tellement évidente si nous on y a pensé que une vie intelligente l'aurait envoyée depuis des millions ou des centaines de millions d'années et elle aurait déjà atteint notre planète. Donc on l'aurait déjà vue. Donc a priori, comme cette méthode n'a pas été utilisée et que c'est une méthode évidente, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie intelligente dans l'univers. Bon, peut-être aussi que c'est pas, peut-être qu'ils nous ont vus et qu'ils veulent pas nous parler, peut-être qu'ils ont pas envoyé jusqu'ici parce qu'il y a tellement de planètes, je sais pas, mais ça m'a fait bien rigoler cette histoire. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses intéressantes. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur JP et sur tous ses projets, il va vous dire tout de suite comment vous pouvez le joindre et le suivre sur Internet.
Alors, c'est @JPEncausse sur Twitter, sinon encausse.net sur mon site, et puis vous aurez accès à tout. Sarah.encausse.net pour avoir plus d'infos sur Sarah.
Si vous êtes un fan de maisons connectées et d'intelligence artificielle, allez sur sarah.encausse.net, vous ne serez pas déçu. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Jeff, c'est @Jeff, toujours sur Twitter. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, c'est facebook.com/NotPatrick. Google Plus est vraiment en train d'être démantelé par Google. On a entendu qu'ils le supprimaient de tous leurs services, à commencer par YouTube aujourd'hui. Donc bon, je vais quand même dire que je suis sur Google Plus, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Comme je le disais, vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez retrouver également d'autres émissions comme le rendez-vous jeu au hasard, où on parle toutes les deux semaines en alternance avec le rendez-vous tech de jeux vidéo. On a fait une émission, la dernière émission qu'on a fait, on vous parle notamment entre autres de Satoru Iwata, qui était le président de Nintendo, qui est malheureusement décédé il y a deux semaines, et de la rencontre du championnat de jeux de combat EVO 2015, où il s'est passé des trucs absolument incroyables. On vous parle aussi de bien d'autres choses. Je vous encourage à aller écouter le rendez-vous jeu si le gaming est quelque chose qui vous intéresse. C'est le même traitement qu'avec la tech dans le rendez-vous tech, mais pour les jeux, hein, c'est tout à fait logique. Et vous pouvez bien sûr laisser des commentaires sur cet épisode du rendez-vous tech, toujours sur frenchspin.fr. Si vous voulez vous moquer de moi sans fin parce que je n'ai pas réussi à retrouver le nom de Tuil sans faire appel à Twitter, n'hésitez pas à le faire sur le site ou sur Twitter directement. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, si ce qu'on fait vous intéresse, si ça vous plaît, si comme un magazine que vous payez à l'époque où vous achetiez encore du papier ou comme un journal, vous êtes prêt à donner $1, $2, or $3 pour me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur patreon.com/RDVTech, vous le connaissez, le lien est de toute façon partout. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous, grosse bise.
Ciao à tous et merci beaucoup pour l'invitation.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't. Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.